Bon matin, bon après-midi, bon début de la saison de la slush à toutes et à tous. Aujourd'hui, on discute d'inégalités sociales et pour naviguer à travers cette étude de cas faite par le FILAB sur la cause des aînés au Québec, regard croisé sur les dons des fondations subventionnaires et subsidiarité de l'État en lien avec la cause aînée, on reçoit Lise Roche, directrice des programmes pour la Fondation Mirella et Lino Saputo. Sur ce, restez à l'écoute parce que le FILAB Podcast, ça commence maintenant.
Alors, Lise Roche, directrice de programme à la Fondation Mirella Lino Saputo depuis bientôt 7 ans. Ce qui me distingue, je dirais, c'est que j'ai passé, moi, 30 ans à travailler dans des organismes communautaires, personnes âgées, personnes handicapées, essentiellement des regroupements, à aider les organismes à concevoir des projets, chercher du financement, réfléchir à leur posture, ce qu'ils devaient offrir comme service. Mon arrivée à la Fondation, c'était vraiment d'essayer de voir comment je pouvais continuer à aider ces organisations-là, mais avec un levier différent. Parce que la Fondation Mirella Lino Saputo, qui est une fondation familiale privée, soutient des initiatives essentiellement pour les personnes âgées et les personnes handicapées partout au Québec. Il y a maintenant la Fondation Amelia Lino Saputo, qui a également son site Internet, qui donne dans d'autres créneaux. Alors, quand on nous cherche, il faut vraiment aller vers Mirella et Lino Saputo. Fait que c'est la fondation de monsieur et madame Saputo qui ont démarré la compagnie de fromage, puis qui, quand ils se sont rencontrés, donc avant même leur mariage, s'impliquaient tous les deux, un dans des causes pour les personnes âgées et l'autre pour les personnes handicapées. Fait qu'ils ont consolidé au fil des années là, ces volets philanthropiques personnels.
Ah, c'est magnifique. C'est magnifique de penser justement là, qu'il y a tout un bagage là, pré-mariage. Justement, on va rentrer dans le vif du sujet, là, ce qui est la fameuse recherche qui a été faite au niveau du FILAB. La première question que j'aimerais ça qu'on pose, ça serait, c'est quoi qui a amené à cette collaboration, que ce soit avec justement toi et le FILAB ou tout simplement justement là, la fondation ainsi que cette étude-là?
Bien, déjà, moi, j'ai toujours été intéressée là, dans ma pratique à aller voir ce qui se faisait du côté de la recherche pour intégrer ces informations-là, parce qu'on se doit de documenter puis de savoir ce sur quoi on travaille, de pas n'y aller que avec l'instinct puis ce qu'on voit dans l'actualité et ce que nous disent aussi les personnes avec lesquelles on travaille. Je me retrouvais souvent devant des organisations qui faisaient des demandes de dons ou d'autres fondations qui tentaient de me convaincre que, tu sais, ce serait donc mieux si on donnait pour d'autres groupe de la population. Comme si, tu sais, les personnes âgées, les personnes handicapées, c'était pas important. Et ça me questionnait toujours. Est arrivé en plus, à un moment donné, COMACO, qui est un regroupement d'organismes à Montréal, là, qui travaille des organisations pour les personnes âgées, qui a publié un document où il y avait un message un peu pour dire que c'était pas la place des fondations de soutenir les services à domicile pour les personnes âgées. Puis là, je me suis dit, OK, il faut aller plus loin. Et j'ai interpellé le FILAB pour qu'on voit, mais OK, mais on peut-tu réfléchir à pourquoi il y a si peu d'argent de la philanthropie pour les personnes âgées? Pourquoi il n'y a pas d'intérêt pour ça? Qu'est-ce qui distingue? Et c'est ça qui nous a mené tranquillement vers ces travaux-là. Fait que c'était vraiment une demande de notre part au FILAB pour travailler là-dessus, puis il y a tout de suite eu un intérêt. Puis ce qu'on retrouve comme information touche beaucoup d'autres groupes. On s'est attardé aux personnes âgées, mais plusieurs groupes qui sont délaissés par la philanthropie peuvent lire ces rapports de recherche, ces travaux-là, puis ça va les amener à une réflexion sur pourquoi ces groupes-là également, parce que c'est pas le seul groupe là, qui est oublié.
Là, j'ai devant moi justement le cahier de recherche qui est intitulé en fait « Étude de cas sur la cause des aînés au Québec, regard croisé sur le don des fondations subventionnaires et la subsidiarité de l'État en lien avec la cause aînée ». Donc, nous, on va focusser un peu plus sur la phase 2. Là. Il y a eu toute la phase 1 qui est un peu plus au niveau là, de la recherche, si je ne me trompe, académique. Puis, c'est intéressant aussi pour les auditeurs qui veulent en savoir plus. C'est pas nécessairement la même étude, mais il y a eu un épisode par le passé avec Adam Safer, qui a fait partie, si je ne me trompe, de la partie 1 sur justement là, la cause des aînés. Qu'est-ce que ça veut dire la subsidiarité de l'État dans la gouvernance sociale pour le commun des mortels?
Mais en fait, on s'est vraiment rendu compte de ça dans le début des travaux, c'est que les donateurs ne vont pas donner pour des organisations pour les personnes âgées, pour des projets pour les personnes âgées, parce que, selon eux, ça revient à l'État. C'est à l'État à le faire. Puis même du côté des organisations, on va entendre ça. Non, ce n'est pas à la philanthropie de nous soutenir. C'est à l'État, parce que c'est à l'État de s'occuper de ça. Alors, autant le mobilier dans les centres, les CHSLD, l'air climatisé, les soins à domicile, l'aide médicale à mourir, le soutien alimentaire, l'habitation pour les personnes âgées. Donc, l'ensemble de ce qui va les toucher, ce qu'on entend, c'est que c'est à l'État à le faire. Et il y a toujours, du côté de la philanthropie, là, une zone à laquelle on doit faire attention, qui est de ne pas se substituer au gouvernement. Donc, si c'est à l'État à le faire, il y a un danger qu'on prenne cette place-là parce que souvent, on peut mettre l'organisation dans une position précaire parce que l'État va-t-il revenir après la philanthropie, soutenir l'organisation dans ses activités. Fait que c'est toute cette notion-là de c'est à qui de le payer? Est-ce à l'État? Est-ce à la personne? Est-ce à la philanthropie de faire ces dépenses-là? Puis, on est devant une situation où les besoins des personnes âgées vont en augmentant. Les finances et les moyens de l'État ne vont pas dans le même sens. Les organisations, les organismes sur le terrain ont les mêmes enjeux de recrutement puis de capacité. Comment on orchestre ça, en fait? T'sais, c'était toute la question de dire, OK, mais on fait quoi? Puis pourquoi on parle tout le temps de la substitution à l'État quand il est question des personnes âgées, alors que pour les mêmes enjeux, quand c'est pour d'autres groupes, la question n'est jamais posée et la philanthropie soutient les besoins. Alors, c'était ça qu'il fallait aller explorer. Et si ta réponse, c'est qu'est-ce qu'on a trouvé, mais c'est beaucoup, beaucoup de questions. T'sais, on en sort avec, oui, de la documentation, mais énormément de questions encore à se poser.
La question s'en vient vers le « ça a été quoi les résultats du travaux? » Moi, les différents éléments qui me viennent en tête, c'est sûr et certain, la population vieillit graduellement. Il y a moins en moins d'enfants. La pyramide sociale, dans le fond, depuis que je suis au secondaire, on parle tout le temps qu'elle commence à être inversée. Mais en même temps, je me pose la question par rapport au niveau des résultats. Comment est-ce que ces résultats ont été placés dans le cadre où est-ce que, dans le fond, juste le terme « aîné » est un spectre de personnes? Dans le fond, oui. Autant qu'il y a des personnes qui sont extrêmement aisées au niveau de leur retraite, comme il y en a d'autres personnes qui sont tout le temps, presque sous l'eau à pas savoir exactement s'ils vont avoir leur prochain repas ou quoi que ce soit. Donc, au niveau de vos résultats, comment est-ce que vous avez analysé ces différents points-là?
En premier, je voudrais mentionner que n'importe quel groupe de la population va trouver ça. Tu sais, quand on parle des personnes LGBTQ, des personnes immigrantes, des enfants, on a une variété infinie là, de possibilités. Fait que, tu sais, oui, pour les personnes âgées, mais je trouve que c'est valable pour la majorité des groupes. Puis ça a été dans les premiers ateliers, ce qui était soulevé, c'est quoi un aîné, c'est quoi une personne âgée, on en vient à la conclusion que c'est quand toi, tu t'identifies à ce groupe-là puis que tu vas vers ces besoins-là. T'sais. Alors, dans certains projets, la majorité, on va aller vers 65 ans et plus. Beaucoup d'organismes vont aller vers 70, 75 ans et plus. Certains encore plus que ça. D'autres, dans certains travailleurs âgés, il y a quelques années, c'était 45 ans et plus. Là, ça augmente, c'est correct. Alors, c'est une notion qui, également, qui va rester floue parce que, il y a 50 ans, tu étais âgé beaucoup plus jeune que ce que tu l'es maintenant, mais tu l'étais pendant moins longtemps. Fait que, oui, ça va, il y a un flou et il va rester ce flou. Puis, il va falloir toujours s'ajuster en fonction du terrain dans lequel on travaille, là.
Au niveau des résultats de l'étude, vous, de votre côté, ça a été quoi les grandes questions peut-être qui sont revenues? Ou d'un autre côté, justement, là, ça a été quoi les différents éléments qui ont été mis en place depuis le début des travaux?
Alors, ce qui a été mis en place, vraiment, c'est des choses qui ont été proposées dans les premiers ateliers, où il y avait un besoin de réunir, pour commencer, les fondations qui donnent pour des projets pour les personnes âgées, et de poursuivre la réflexion, le questionnement. Je dois dire déjà qu'on était tous en accord et en désaccord avec la substitution gouvernementale. On y va pas, tu sais. Donc, ce groupe-là a été formé. On est 9 fondations à se rencontrer de façon très informelle, régulièrement, se présenter au Québec, là, des fondations qui donnent au Québec, se présenter des projets, demander à des organisations de venir nous présenter leurs projets à toutes les fondations. Alors, ça, on a mis ce groupe-là. Récemment, PFC a mis sur pied le même type de groupe pour le Canada. Avec le FILAB, on a organisé en mai 23 une rencontre pour la présentation des résultats puis de d'autres résultats de recherche qui avaient pour des groupes qu'on disait oubliés. Alors, cette rencontre a réuni une soixantaine de personnes d'organisations différentes là, à Montréal pour entendre les résultats puis réfléchir, puis ça a amené d'autres conversations. On est contacté régulièrement, autant du côté du FILAM que de notre côté, par des personnes qui ont des questions, qui veulent en discuter. Fait que ça, c'est intéressant, ça amène d'autres éléments au moulin. Puis là, ce qui s'en vient, c'est vraiment parce que le FILAB a consulté les organisations pour voir, OK, mais maintenant qu'il y a ça, puis on le sait, un rapport de recherche, c'est pas une lecture du samedi matin toujours, là. Alors, ce qui s'en vient, c'est vraiment une grille pour permettre à chacun, en étudiant un projet, de voir, OK, oui, non, est-ce que c'est de la substitution gouvernementale et est-ce que j'y vais quand même ou pas? Tu sais, pour quelle raison? Alors, ça amène des éléments de réflexion, des pistes pour continuer. Fait que ça, on est en train de travailler sur cet outil-là qui vous amènera pas à un oui-non foncé, là, mais vraiment à réfléchir sur pourquoi et comment vous prenez votre décision. Fait que ça, c'est à la demande des organismes. Mais sinon, ce qu'on a eu comme résultat, tu sais, c'est que vraiment, on est sur un terrain qui est vraiment en gros changement. La pandémie a amené, on l'a vu, une prise de conscience, beaucoup de transformation dans ces organisations-là, dans les populations qui sont desservies là, chez les personnes âgées. Pas beaucoup de transformation dans les financements, les intentions gouvernementales. Bon, il vient de sortir là, cette semaine le tome 4 de la réflexion de la commissaire à la santé qui est sur les services à domicile. On voit les mêmes constats que ce qu'on a fait là, avec le FILAM sur le terrain sur lequel on travaille. Donc, ce terrain-là va être beaucoup en changement. On ne peut pas ignorer l'action subsidiaire. Donc, oui, il y en aura, mais il faut juste être conscient quand on l'a fait. Il faut continuer à réfléchir à ça. Puis, ce qu'on a vu, c'est que ça s'applique à toutes les organisations philanthropiques et à l'ensemble des secteurs, la subsidiarité. C'est juste que ici, c'est un frein, alors que dans d'autres groupes, c'est pas un frein, il n'y a pas de réflexion sur ce sujet-là. Fait que ça a remis aussi l'importance de ce phénomène-là dans une autre perspective. Il faudra toujours continuer à amener la réflexion puis à se poser des questions. C'est avec quoi on est ressorti.
Moi, il y a deux éléments, là, surtout, qui sont ressortis, puis je pense qu'on va essayer d'explorer ces deux éléments un peu plus en profondeur. Mais le premier élément, dans le fond, j'aimerais ça qu'on touche, c'est par rapport à tout l'aspect de communication. Parce que, justement, on a pointé le fait qu'un rapport de recherche, c'est pas une lecture dimanche qu'on va placer sur sa table de chevet. Mais comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'univers académique a encore sa place dans le discours public? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'univers académique puis ce type de recherche-là est plus loin que juste d'être placé dans une bibliothèque puis de se dire que dans 5 ans, il y a peut-être un élève qui va le ressortir, qui va le relire puis qui va faire sa maîtrise autour de cet élément-là puis de cette recherche. Donc moi, c'est un peu cette question-là, en fait. Comment est-ce que, dans le cas d'un partenariat, justement, on peut s'assurer de laisser une forme de pérennité active dans l'univers, que ce soit philanthropique ou seulement dans l'univers québécois?
Bien, c'est une des choses que j'aime beaucoup du FILAM, là, c'est qu'ils poussent cet exercice-là tant qu'ils peuvent. Là. Fait que ça, je trouve qu'il faut qu'il y ait du côté des chercheurs puis de l'organisation de recherche cette volonté-là aussi de sortir de la revue de recherche scientifique. Là. Moi, je pense que dans tout projet de recherche, quand c'est demandé par un organisme, déjà, on a des possibilités supplémentaires parce que moi, je travaille d'un point de vue différent à faire en sorte que cette étude-là fasse du chemin puis que les résultats servent. Et ensemble, on y travaille aussi. Là. Souvent, on fait, Diane et moi, les rencontres avec les organisations. Auprès des organismes, on avance, on a fait un événement, on les a consultés, puis on va continuer, puis on a ce réseau-là. Là où on voudrait réussir à percer, c'est au niveau des journalistes, dans leurs écrits sur le sujet, dans leurs réflexions, pour qu'on aille vers d'autres sujets, puis qu'on aille aussi vers la population en général là, pour se questionner sur cette réalité-là. Il y a du travail à faire, peu importe le résultat de recherche, pour que les résultats soient utilisés, puis qu'on poursuive les réflexions au-delà du projet de recherche.
Je tiens juste à préciser aussi pour les personnes qui écoutent que Diane, en fait, est la directrice de Hub Québec au niveau du Philab. Donc, il y a eu un grand partenariat, puis justement, elle a fait partie de la recherche de laquelle on parle aujourd'hui.
Une personne extraordinaire qui a vraiment réussi à donner l'élan, puis qui a utilisé, même tu sais, dans ce projet-là, tu le disais tout à l'heure, mais on a utilisé les résultats de Adam pour que justement ce que lui a fait serve encore, puis l'étude d'Adam se poursuit, Adam Safer, là, elle se poursuit en utilisant nos résultats. Fait que tu sais, il y a une chaîne aussi dans le filam par rapport aux résultats de recherche, là.
Justement, parlant de cette chaîne, est-ce que ça serait possible justement d'aller peut-être un peu plus en profondeur par rapport à la grille? Il y a des éléments qui sont comme un peu ressortis déjà. Moi, c'est l'élément en fait de la grille n'est pas un absolu. Dans le sens que c'est pas la grille qui va définir si oui ou non j'embarque dans le bateau. Mais c'est quoi les différents éléments justement qui permettent la définition puis la concrétisation d'une telle grille, puis justement au niveau de la prise de décision, comment est-ce qu'on détermine le cadrage d'une grille comme ça?
Hey, je sais pas là, si je vais être capable de répondre. Parce qu'elle est vraiment, vraiment en construction. T'sais, seront utilisés des résultats de la recherche, mais aussi des réflexions qui ont été faites par les participants dans les ateliers, là, notamment, puis à la rencontre de mai. Tu sais, souvent, on, dans les fondations, on arrive à la conclusion, tu sais, qu'on pense qu'on est en substitution. Et ça se fait quand même, là, que ce soit pour un groupe ou un autre. Fait que l'idée, c'est juste de terminer ton exercice avec la grille, puis de savoir où tu te positionne par rapport à la substitution gouvernementale, mais ensuite la décision qui va en découler. Tu pourrais terminer en te disant non, mais que tu y vas pas parce que autre chose. Tu sais, des fois, on fera pas le don parce qu'on se dit OK, mais le projet réussira pas à se poursuivre, sera pas, tu sais, on pourra pas le transférer ou l'organisation va être en danger si on les soutient pour mettre ça sur pied parce que ils ont pas les reins assez solides, parce qu'ils vont oublier d'autres, tu sais, ils vont devoir laisser tomber d'autres éléments. Mais fait que c'est vraiment un outil de réflexion qui va partir de l'ensemble de ce qui aurait été nommé, puis qui probablement pourra être utilisé pour d'autres groupe de population également. Je peux pas être plus précise parce que on est vraiment dans les balbutiements là, de sa conception.
Oui, puis je serais intrigué justement à voir l'évolution peut-être à travers le temps de cette grille-là qui va peut-être non seulement se concrétiser, mais qu'à long terme, va peut-être trouver différentes versions pour aller chercher différents angles par rapport à différents peut-être groupes de population ou quoi que ce soit. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui serait intéressant.
Et l'actualité, les personnes âgées, comme les autres groupes, là, vivent des situations qui sont liées à leur âge, qui sont liées à la situation historique de la retraite, là, etc. Mais ils vivent également tout ce qui concerne l'ensemble de la population. Là, donc, en ce moment, quand on parle d'itinérance, de sécurité alimentaire, d'habitation, ce n'est pas des thèmes qui étaient dans l'actualité pour les personnes âgées il y a 15 ans, mais c'est des thèmes qui le sont maintenant, aussi criants que pour les autres groupes, des fois différemment, des fois non. Fait que l'actualité fait aussi que la grille va prendre une autre dimension, puis que ce qui était considéré comme la substitution hier ne sera peut-être pas demain. T'sais, l'inverse est peut-être également vrai parce que des fois, les politiques changent, t'sais, puis on fait comme « Ah, OK, bon, ben, t'sais, ça a été pris en charge et donc on n'est plus là. » Si on prend les enjeux, par exemple, de maltraitance envers les aînés, ben, avec l'augmentation de tout ce qu'on voit dans les médias, l'utilisation de l'intelligence artificielle, etc., on peut s'attendre à ce que, par exemple, les institutions bancaires prennent des responsabilités qui vont faire en sorte que, oups, peut-être que les organismes auront moins à intervenir sur certains aspects et que, donc, la philanthropie va se retirer. L'actualité change également la notion de la substitution.
On voit comment l'effet papillon, des fois, peut avoir tellement un grand impact par rapport à certains éléments que parfois on fait juste prendre pour acquis. En fait, c'est plus ces éléments-là où est-ce que lorsqu'on ressort, des fois, on se dit « Ah, ben c'est vraiment du pouvoir de l'État. » Puis en réalité, il y a un élément qui va arriver puis ça change complètement la perspective par rapport à ce sujet. Cette question-là est aussi simple que « Est-ce qu'il va y avoir une suite à cette étude? Est-ce qu'il y a une suite qui est planifiée? Est-ce qu'on voit déjà la possibilité de continuer justement les recherches? »
Mais là, oui, déjà, on soutient un autre volet. La Fondation Mireille Aligno Saputo s'est engagée pour un autre volet. Moi, j'y tiens. Je trouve que c'est vraiment très éclairant. Je pense qu'il faut poursuivre ces études-là, ces réflexions-là, qu'on a commencé avec le FILAM. Puis, il s'en fait pas beaucoup, là. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'informations. Philanthropie, personnes âgées, c'est pas non plus un domaine qui est très riche, là. Fait que on trouvait ça important. Puis, il y a tout, ce qu'il faut qu'on poursuive, c'est vraiment toute l'approche auprès des groupes, tu sais, autant du côté des organismes communautaires qui sont demandeurs que des fondations qui les soutiennent et de celles qui ne les soutiennent pas, tu sais. Donc, comment on peut faire aussi pour que une fondation qui soutient quelque chose de généraliste, comme par exemple, je sais pas moi, l'habitation, l'itinérance, il y a une préoccupation différente dans l'analyse des demandes de dons par rapport à l'ensemble des populations pour pas que ça se retrouve encore, tu sais, uniquement dans certains autres groupes, là. Comme on disait tout à l'heure, tu sais, du côté des médias aussi pour que l'information circule plus. Fait que oui, assurément, il y a pas une suite, il y a des suites.
Fait que ça va faire un peu effet comme une toile d'araignée. Faites juste ce projet-là en tant que tel va créer justement une suite, des suites en fait, qui va créer des suites et ça va devenir exponentiel. Puis je pense que c'est la chose que cette idée-là de pérennité qu'on souhaite tous.
Bon, quelques dizaines d'années que je suis dans le secteur des personnes âgées. Puis tu sais, déjà, il y a 30 ans, le vieillissement de la population, les enjeux des personnes âgées, ils étaient tous sur, tu sais, à peu près sur la table, là. Tu sais, puis on disait, il y a 30 ans, on disait, on est en retard. Alors, tu sais, il y a eu la pandémie où, ah, oh, mon Dieu, tu sais, les personnes âgées, mais on est revenu à comme il y a 30 ans. Donc, ça fera pas une grosse boule de neige demain matin. Tu sais, on le voit comme une contribution, on le voit comme une nécessité. On va aller chercher des nouveaux acteurs, puis on va peut-être amener quelque chose de différent, mais je ne m'attends pas. Avec tout ce que j'ai vécu, vu, entendu, je ne m'attends pas à une révolution. J'aimerais ça. J'aimerais ça. Parce qu'elle est nécessaire, parce que, tu sais, c'est le rêve qu'on a tous pour nous et pour nos proches, c'est de vieillir. T'sais, si tu vieillis pas, c'est parce que t'es pas là. Fait que on veut tous vieillir. Tout le monde n'a pas le même parcours dans la vie. Donc oui, il y a des soutiens à faire. Puis c'est souvent en aidant une personne que tu as un impact sur l'ensemble des autres membres de la famille. T'sais, fait que c'est la même personne, t'sais, qui était enfant, qui est devenu âgé, qui était travailleur, qui ne l'est plus, qui est en santé, qui a maintenant besoin de soutien, qui était bénévole et qui maintenant doit recevoir des services d'un bénévole. J'en rêve beaucoup, mais une chose à la fois.
Et oui, chers, c'est bel et bien terminé pour aujourd'hui. Si jamais vous avez adoré notre discussion entourant les inégalités sociales et cette étude de cas, n'hésitez pas à rester à l'affût sur nos différents réseaux pour plus de contenu. Je voudrais remercier Lise Roche pour sa présence et au Filab pour héberger ce balado éducatif. Par le fait même, je voudrais remercier notre magnifique équipe de production sans qui cet épisode ne serait pas possible. Nous avons Catherine McDonald à la direction ainsi que Philémon Lafrenière-Prémont à la coproduction, la recherche et au montage. Merci encore une fois d'être membre de notre incroyable communauté. Restez curieuse, courageuse et clémente. Ensemble, on peut faire la différence. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se dit à la prochaine. Bye.